Bonjour à toute la planète, ici Tam Tam Canada en direct de Montréal. Bientôt, on l'appellera Tam Tam Montréal. En attendant, on a le plaisir de vous accueillir avec, sous la froideur de l'hiver, c'est une des journées les plus froides, non seulement ici à Montréal, mais sans doute dans l'Ouest canadien également.
Exactement. Oui. À l'Est aussi.
Les pingouins même ont froid eux-mêmes.
Oui, oui, à Calgary, ils ont été rentrés dans le zoo, ils les ont rentrés dans les bâtisses là.
Alors on a rentré dans le bois à l'émission, voici pour nous réchauffer un peu les collègues.
Donc, Samir Benjafer,
voilà. Ismaël Oudassine, bonjour.
Bravo. Et bonjour, ici Stéphane Parent. Alors bienvenue à cette émission. Encore une fois, vous n'avez pas d'idée du sujet.
Non.
Vous allez voir, ça va être un beau sujet pour le temps de l'hiver. J'allais dire le temps des fêtes, mais c'est passé. Bon, alors on y va. On va regarder
allons-y.
La vidéo numéro...
Et avant de la regarder, il faut juste rassurer nos auditeurs que la non-présence de femmes aujourd'hui, ce n'est pas du tout un coup d'État masculiniste ou quoi que ce soit. C'est juste que pour des...
Bon, là, vous avez raté la première image. Oh, donc
moi, je l'ai vue.
Vous l'avez vue.
Ah, moi, ça m'aide.
Cinq images pour vous décider. Quel est le sujet aujourd'hui de l'émission?
Écoutez, les feux de forêt en Australie, non?
Réchauffement climatique.
Ah, oui. C'est bon. Réchauffement climatique, j'aime beaucoup. Continuez.
Catastrophe
naturelle. Oh, c'est bien. Le mot catastrophe.
Oui. Gestion des catastrophes.
Gestion des catastrophes. Mon Dieu, vous travaillez bien en équipe.
Oui, là, aujourd'hui, on est en feu.
Oui. Oh, écoutez, ben voilà, ça va réchauffer un peu aujourd'hui.
Ah, OK, c'est ça? Ah, alors, du coup... des coûts et risques des catastrophes naturelles.
Ouais. Voilà. Ben, il faut en parler.
Alors, on va établir des parallèles entre la situation en Australie et la situation au Canada. Nous sommes aux antipodes, mais nous avons des problèmes communs, même que nous pourrions nous entraider. Et on va parler de ça avec deux spécialistes, notamment un de la gestion des crises au Canada, un grand spécialiste. On va découvrir ensemble que la responsabilité du futur nous incarne à nous, simples citoyens. Les gouvernements pourraient ne pas pouvoir... faire les frais du réchauffement, éventuellement. Tous les frais, en tout cas. Ah, okay. Donc, il va falloir se responsabiliser.
Les compagnies d'assurance, j'espère qu'elles
elles ne feront jamais faillite. Non, ça, c'est sûr. Oui. Alors, on regarde ça ensemble. J'ai pour vous préparé, avant d'aller vers notre premier invité, notre premier spécialiste, vous savez, on a trois jeux à l'émission, grâce à la grosse boule. Ouais. On lance la première boule. Voilà.
Allez.
Il y a 100 boules à perdre par émission. Pour le premier jeu, 20 boules à perdre. Et... avant d'aller vers la question comme telle, je pense que j'ai préparé pour vous quelque chose d'amusant.
Ah, okay.
C'est pour vous mettre dans le bain un peu, pour aider ceux qui nous regardent à l'extérieur du Canada, ou même aujourd'hui à l'extérieur de Montréal, qui n'auraient pas une idée de la géographie canadienne, parce qu'on va beaucoup parler de géographie aujourd'hui en parlant du réchauffement. D'accord?
Ah, okay.
C'est le thème. Faites bien attention, chaque question aujourd'hui bâtit sur la précédente. C'est un peu comme les tests de mathématiques à l'école.
Okay.
Si c'est pas bon,
Te trompes en premier,
oublie les restes. 0 sur 20. Alors, on y va pour la première. Je vous présente une image. C'est notre vidéo numéro 2. Ça vous donne une idée de la grandeur de l'île de Montréal, parce que ça va être important dans la première question, cette grandeur-là. On va montrer l'île de Montréal, à quoi ça ressemble. Ce n'est pas tout ce que vous voyez à l'écran.
Ouais.
On va encercler ça. C'est d'où on vous parle en ce moment, pas loin de Longueuil. Et puis, on fait tout le tour de l'île de Montréal, pour ceux qui n'ont jamais eu le temps de le faire en vélo.
Dollars.
Ouais. Voilà. Et ça descend jusqu'en bas de la carte, ça disparaît même.
L'aéroport du côté de Dorval.
Voilà.
Ouais.
Donc, on agrandit un peu la carte pour vous donner une idée. On présente à l'écran la première de nos deux questions aujourd'hui. La superficie de la forêt australienne qui est partie en fumée et qui vaut en ce moment à combien de fois celle de l'île de Montréal? D'accord? Est-ce que c'est A, 50 fois? Est-ce que c'est B, 100 fois? Ou est-ce que c'est C, 200 fois?
Parti en fumée, ça veut dire qu'il est vraiment
c'est
brûlé. Là,
c'est réglé.
Moi, c'est 200 fois.
200
fois. C'est énorme, les feux qui ont ravagé. Oui, oui, il y a des états qui... Et ça continue.
200.
Alors, on va... Écoutez, je sais qu'on s'étend souvent en répondant, parce qu'on ne sait pas trop qu'on réponde. Hein.
Moi, je pense que c'est impressionnant, donc je prends le chiffre le plus impressionnant.
Le plus impressionnant.
Mais après, la réalité...
Bon. On a combien de secondes qui restent pour la réponse?
Moi, pour qu'il y ait deux réponses différentes, moi, j'irai pour 100... Montréal. Imagine Montréal 100 fois. Alors que ce qu'on nous a montré, c'est vraiment énorme.
Il faut répondre. Là, vous avez 60 secondes pour répondre. Vous avez déjà épuisé 59 secondes.
Allez, 200.
OK, 100. Moi, j'irai pour 100.
100 fois, donc B. Alors, si vous voyez un astérix apparaître au niveau de votre réponse, ça veut dire que vous conservez vos boules.
Oh, bravo, Ismaël.
Voilà,
je perds 20, c'est ça?
Vous avez perdu seulement.
Parfait.
Rien de grave. La suite,
ça rattrape.
Peut te rattraper. Mais 200 fois, c'est incroyable.
C'est quelque chose.
Oh là là.
C'est
le calcul est simple. 500 km carrés, l'île de Montréal, à peu près. On enlève peut-être un demi-kilomètre, pour arrondir. Et là-bas, c'est 100 000 km carrés.
100 000 km.
Donc ça donne 100 sur 1000. C'est un rectangle de 100 km sur 1000
km. Mon Dieu, une chance, vous n'êtes pas professeur de mathématiques.
Voilà. Et un demi-milliard d'espèces aussi. Ouais. C'est un chiffre qui ont disparu.
Espèces, on parle de... C'est-à-dire
reptiles.
En nombre.
Ouais. Oui. Moi, j'ai vu, entendu parler d'un milliard.
Oui, après, ça va de...
Écoute,
après.
Ça compte les poissons, ça compte tout. Ouais.
Mais c'est assurément une catastrophe à la fois écologique et naturelle.
C'est une catastrophe. Mmh. C'est humain.
Et quand tu vois les koalas qui demandent à qui on donne de l'eau comme ça. C'est...
Les images étaient très...
Les kangourous, tout.
C'est pas fini, le mois de février, le mois de mars seront les mois les plus chauds.
Mais ils ont eu récemment un peu de pluie, donc ça fait une...
Oui, mais comme tu dis, Stéphane, la saison estivale, elle commence. Ouais, donc ce n'est que le début d'une plus grande catastrophe, malheureusement.
Quand c'est l'été là-bas, c'est l'hiver ici, et vice-versa. Ben,
là-bas, Noël est toujours en été, c'est ça.
Et puis les Canadiens et les Australiens peuvent s'aider mutuellement au niveau de leur expertise, parce que quand on est en congé, eux sont au travail.
D'ailleurs, le Canada a envoyé une équipe pour la gestion des pompiers, des incendies. C'est pas les pompiers avec des tuyaux.
On n'est pas des gros bras seulement. On est des gestionnaires.
Il y a une expertise quand même au Canada. Il y a des feux à chaque été aussi au Canada. L'Alberta, la Colombie-Britannique est touchée toujours par des incendies très forts.
On se rappelle des incendies à Fort McMurray aussi. Ça a été énorme.
En Alberta.
Tu sais, ça me donne une idée. On va essayer de présenter des images de ça dans un instant ou deux. D'accord? On va aller vers notre spécialiste de la gestion. Des catastrophes naturelles. Il s'agit de Michel Doré, président du Réseau canadien d'études des risques et dangers. Monsieur Doré, bonjour.
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 Bien sûr, vous faites plus que vous occuper des incendies de forêt. Il y a bien les tremblements de terre, il y a les inondations, bien sûr. Au niveau des incendies de forêt, j'aimerais avoir votre impression, vos impressions en tant que spécialiste, lorsque vous avez vu tous ces touristes et tous ces Australiens le long de la côte, surpris par la rapidité de la progression des flammes et les autorités elles-mêmes qui semblaient dépassées. Vous êtes dans un scénario connu, vous.
Il faut savoir que les catastrophes naturelles ont cette caractéristique commune, qu'on parle de temps violent hivernaux ou de feux de forêt, d'affecter un grand nombre de personnes simultanément. Et quand on dit d'affecter des grandes régions, ça veut dire à la fois au niveau des populations, au niveau des infrastructures et toutes les personnes qui occupent le territoire, qu'elles soient des résidents, des travailleurs ou des touristes, vont subir les affres de ces événements-là. Alors, c'est certain que, qu'on l'ait vu avec les feux de Fort McMurray, les incendies de forêt récurrents que nous avons, non seulement dans l'Ouest canadien, mais aussi on en a dans le nord du Québec, nous en avons aussi vécu dans les provinces atlantiques, au Nouveau-Brunswick notamment. Ce sont toujours des événements qui viennent frapper à la fois l'imaginaire et à la fois venir perturber le fonctionnement de la société.
Dans ce genre de situation, il y a évidemment, les gouvernements peuvent générer des capacités importantes pour essayer de venir en aide aux citoyens, mais les citoyens ont eux-mêmes leur propre responsabilité dans tout ça. Et on le dit aux Canadiens dans le cas des tremblements de terre, par exemple, dans la région du fleuve Saint-Laurent, à Montréal, où il pourrait y avoir un tremblement de terre d'une amplitude incroyable, aussi grand peut-être qu'à Vancouver. On le dit aux citoyens, préparez-vous, mais combien de citoyens se préparent à mettre de l'autre côté, de la nourriture de côté?
La proportion de citoyens qui le fait spécifiquement pour les fins de réponse aux catastrophes est relativement modeste. Toutefois, on constate à travers les catastrophes, et c'est quand même circonstanciel, on parle de tremblements de terre dans la région de Montréal. Il y en a eu un dont l'épicentre était à Armstrong, près de Valleyfield, dans les derniers jours. Alors, cette réalité de la vulnérabilité sismique et ou aux incendies de forêt ou aux temps violents hivernaux nous affecte tous au Canada. Alors, ben, pour les tremblements de terre, principalement le Québec et la Colombie-Britannique, et ce qu'on constate toutefois lors de ces grands événements, c'est que la majorité de la population est beaucoup plus résiliente et autonome qu'on peut le croire. À preuve, on se souviendra de la tempête de Verglas de 1998 qui a affecté l'Est du Canada, principalement le Québec. Sur les 5 millions de personnes qui ont été affectées, moins de 5 % de la population s'est présentée à un moment ou à un autre dans un centre d'hébergement. C'est donc dire que la population a cette capacité à se prendre en main, mais le confort et le délai par lequel elles pourront le faire vont être évidemment améliorés par la préparation initiale. De là l'importance des campagnes de sensibilisation et de préparation du public où on les incite à avoir chez eux en tout temps une trousse 72 heures ou une capacité à maintenir leur autonomie pendant 72 heures lors d'une catastrophe.
Qu'est-ce qui menace le plus les citoyens, par exemple, dans l'Est du Canada? On va commencer par ça. L'Ouest, c'est des scénarios différents, bien sûr. Mais dans l'Est du Canada, est-ce que c'est forcément un tremblement de terre, des incendies de forêt comme ceux en Australie? Vous qui devez évaluer les risques, qu'est-ce que vous avez comme ça? Qu'est-ce que vous avez dessiné sur votre carte?
Dans la région atlantique, on remarque que les phénomènes météorologiques sont très importants. On pensera notamment aux ouragans, l'hiver aux tempêtes de neige, mais on pensera aux grandes marées, tout le phénomène de l'érosion du littoral, qui est exacerbé évidemment par les grandes tempêtes, sont tous des événements qui vont frapper principalement la côte est canadienne, par exemple.
Est-ce que vous pensez qu'on est assez préparé? Parce que, bon, il y a les assurances, on essaie de s'assurer. Il y a Stéphane qui disait de pouvoir toujours penser à ce qui peut arriver en matière de nourriture. Mais est-ce qu'on est assez préparé, vraiment?
La réponse à ça, c'est qu'on est toujours bien préparé pour les événements que nous avons vécus. Toutefois, le prochain qui s'en vient sera peut-être d'une nature ou d'une ampleur différente. Et ce qui devrait nous inciter à ne pas baisser la garde. De là, l'intérêt, par exemple, à prendre des leçons, tirer des leçons des grands événements qui se produisent un peu partout sur la planète. Et à cet égard-là, les incendies de forêt qu'on a eu au Canada, à Fort McMurray, et ceux qui se vivent actuellement en Australie, sont un rappel que de se contenter d'être prêt à répondre aux dernières catastrophes ne suffit plus dans le contexte évolutif que l'on connaît, évolutif envers des changements climatiques, mais aussi de l'évolution de la démographie et de l'urbanisation sur la planète, et bien entendu la pression que cette urbanisation-là entraîne, notamment sur les infrastructures des municipalités.
Et la préparation aux catastrophes, est-ce que c'est juste... la responsabilité, elle est partagée entre État et individu, mais le plus gros, est-ce qu'il n'est pas au niveau de l'État pour la préparation?
Je serais tenté de vous dire que la plus importante responsabilité en termes de capacité globale d'une société, elle réside chez les citoyens. D'accord. Et elle réside chez les entreprises. Parce que si on demandait à quelques organisation étatique que ce soit, à l'échelle locale, régionale ou nationale, de prendre en charge tous les besoins de base de toute la population et de répondre à tous les besoins d'infrastructure, aucune organisation n'y arriverait. Et c'est donc dire que la population, les familles ont la capacité, sont les premiers acteurs de leur sécurité dans leur décision, notamment de rester ou d'évacuer leur résidence. Les autorités vont donner à la population, aux résidents, des consignes de sécurité et parfois des avis d'évacuation. Et à chaque événement majeur, on remarque que la population hésite et dans certains cas, retarde sa décision d'évacuation, ce qui vient entraîner parfois des pertes humaines, malheureusement, mais qui vient aussi compliquer la vie des intervenants d'urgence. Si d'un côté, on veut tenter de neutraliser les effets de la catastrophe, et de l'autre côté, on veut éviter les conséquences chez les populations en les évacuant, plus on les évacue de façon précoce, plus ça libère la capacité des autorités à concentrer ses capacités opérationnelles sur la neutralisation du danger.
Je voulais vous poser une question sur votre réseau. Est-ce qu'il s'occupe seulement des catastrophes naturelles ou est-ce que ça s'étend jusqu'aux catastrophes industrielles
Le réseau canadien d'échange sur les risques et les dangers, ou le Canadian Risk and Hazard Network, en anglais, s'intéresse à tout type de catastrophes, qu'ils soient naturelles, technologiques, qu'ils soient accidentelles ou intentionnelles. Et quand on parle d'intentionnel, on inclura évidemment les attentats terroristes. Mais on comprendra que les catastrophes industrielles et les attentats, bien qu'elles ont des impacts tragiques pour ceux qui les vivent, c'est souvent en termes de l'espace géographique et de durée beaucoup plus court que les événements météorologiques, climatiques ou les grands séismes.
Ouais. Monsieur Doré, on voit actuellement ces images de Fort McMurray en 2016 qui ont surpris les citoyens d'une ville qui compte à peu près 45 000 habitants. Voyez les gens qui doivent évacuer la ville alors que les flammes sont en train de lécher les camions, les véhicules. Les gens attendent patiemment, font la file, parce que dans l'autre voie, on va laisser passer les véhicules d'urgence, en principe. Là, on voit qu'il y a quelques exceptions. Voilà. Évidemment, là, tous les Canadiens ont vu ça. On a vu les images aussi en Australie d'une équipe de sapeurs-pompiers qui échappe de justesse, de miracle, aux flammes. On a tous à l'idée cette image du réchauffement planétaire, de ces images apocalyptiques. Mmh. Et on se demande, bon, faisons la part des choses. Est-ce que ça brûle plus maintenant que ça brûlait dans le passé? Est-ce que le réchauffement climatique est en train de frapper à la porte? Ou ça fait partie des aléas statistiques normaux?
À ce moment-ci, on est tôt dans le processus des incendies de la Californie, de l'Australie pour tirer des conclusions fermes. Toutefois, on sait que le changement climatique augmente les températures moyennes. On sait aussi que ça vient affecter le régime des précipitations, c'est-à-dire qu'on va avoir parfois des sécheresses plus intenses et dans d'autres cas, des pluies beaucoup plus diluviennes que ce qu'on a déjà connu dans le passé. Et ces événements-là combinés viennent parfois exacerber, soit augmenter l'incidence, donc le nombre d'occurrences de ces catastrophes, et dans certains cas, d'exacerber leurs conséquences. Ce qu'on voit actuellement en Australie nous laisse entrevoir que les changements climatiques ont déjà des répercussions, mais pourraient en avoir d'encore plus grandes. De là, notre intérêt à rester vigilant et à se projeter un peu plus loin que les catastrophes du passé pour maintenir et développer nos capacités, tant en prévention qu'en intervention.
Monsieur Doré, ce fut un plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'émission. Vous êtes vous veillez sur nous, un peu comme un père de famille, mais évidemment, merci. Nous, les enfants, il faut y mettre du nôtre, sinon on n'ira pas loin ensemble.
En tout cas, moi, j'ai retenu la trousse de 72 heures. Ça, oui. Je l'ai retenu. Oui. Oui. Ça, je vais aller vérifier chez moi.
C'est bon, c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Doré.
Merci.
Au plaisir.
Merci, merci.
Alors, c'est Michel Doré. Vous savez, son titre officiel, je l'ai ici sous les yeux. Ça m'a impressionné quand j'ai vu ça. Ouais. Mais président du Réseau canadien d'études des risques et dangers. Puis ensuite, j'ai lu sa biographie. Alors, il a une expérience non seulement pratique, parce qu'hier, il était avec les militaires canadiens dans une base militaire pour discuter de ce qu'on pourrait faire, scénario, ces choses-là. Il a une expérience pratique. Il a été sous-ministre, si ma mémoire est bonne, dans les années 90 au Québec. Okay. Dans le domaine des urgences, c'était le spécialiste à contacter. Et il a une expérience aussi au niveau de l'enseignement. Il travaille à l'Université du Québec à Montréal.
Ah, okay.
Alors, c'est quand même quelqu'un qui a fait le tour et qui, en plus de ça...
La société en profite dans tous les sens.
Toujours.
Il sait de quoi il parle.
Voilà. Écoutez, avant d'aller vers un second invité qui est un spécialiste des forêts et de l'éco-stabilité, beau terme que j'invente.
Alors, pourquoi pas? Bon, on va voir si je suis vraiment loin de la réalité avec ça.
J'ai une petite vidéo à vous montrer. Vous savez celle que je vous ai montrée sur l'île de Montréal?
Oui.
Pour vous donner une idée de la géographie de l'île de Montréal.
500 km2.
Ouais. C'est bien. Vous faites bien de retenir ces chiffres. Voici la deuxième question.
Il ne veut pas perdre.
Je vais récupérer mes points.
Je vais vous présenter. Avant de vous présenter la question, j'ai une vidéo. Il ne faut jamais j'oublie la vidéo. Je pense que celle-ci, c'est la numéro... Attendez voir. Donnez-moi 2 secondes. 6! Merci beaucoup. C'est la bonne. C'est la 6. Félicitations à la régie d'être toujours là pour prévenir les mauvais coups. Alors voilà, on s'intéresse à la superficie, vous voyez, l'île de Montréal, d'accord?
Oui, on est là. Ensuite, Nouvelle-Écosse.
Nouvelle-Écosse. Alors, il y a un jeu de comparaison ici.
Bon, avec 500 km², ma calculatrice.
Oui, c'est bien. C'est très bien. Alors, on va afficher la question maintenant, numéro 2, la grosse boule. Et voici la question. Au Canada, l'équivalent de quel pourcentage de la superficie de la Nouvelle-Écosse s'envole chaque année en fumée?
Oh.
Au Canada, l'équivalent de quel pourcentage de la superficie de la Nouvelle-Écosse s'envole chaque année en fumée?
Bon, ce n'est pas 100%, c'est sûr.
Vous avez 60 secondes. Le décompte est parti. Regardez à l'écran.
Ah, donc on
réfléchit. Ah, OK.
Félicitations à la région.
L'équivalent de la
C'est nouveau. Merci beaucoup. Merci, ça aide.
Toujours quelque chose de nouveau.
Bon, pas 100%. La Nouvelle-Écosse. Attends.
40 secondes. Est-ce que c'est 25%?
Il ne faut pas nous stresser.
B, 50%. C, 75%. Ou D, 100%. Au Canada, l'équivalent de quel pourcentage?
On n'a pas autant de feux comme ça chaque année.
Eh oui, chaque année.
Non, j'irais pour 25%. Moi.
Ouais. 25%, donc pour A.
Oui.
Très bien.
Moi, je dirais... Ce serait triste à dire, mais 100%.
100%.
En espérant que non.
Vous êtes sûr de ça, 100%?
Est-ce qu'on a eu des feux l'année dernière?
J'aimerais avoir tort.
Vous voulez avoir 100% à l'examen?
Ou tu veux pas mais là, tu pars... Ici, on part 30 points, ici, c'est ça?
Ah,
on là, vous perdez 30 boules. Allez.
Ouais, 100%.
100%. Ouais. Vous dites 100% et Samir dit 20.
Moi, je dis 25.
Et voici la bonne réponse. On l'a fait afficher, 50%.
Bon, parfait, 50%. Donc on perd les deux. Donc,
tous les deux, vous perdez 30
boules. Donc moi, il me reste 50.
Parfait. C'est quand même énorme. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. 2,5 millions d'hectares de forêts brûlent par année. Moi, je comprends ce que c'est un acre, mais... Bon, des hectares, c'est presque 1,6 fois plus grand que à peu près.
Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on remarque que ce n'est pas tous les feux qui font l'actualité.
Non.
Finalement, d'après ces statistiques.
Et puis, ce n'est pas tous les feux qui sont nuisibles non plus. Il y a des feux naturels qui font partie du renouvellement de la nature et des végétaux du Nord.
Les feux de camp, c'est ce que je dis.
Pas ceux-là, mais il y a des feux naturels aussi.
Ouais.
Il y a des feux qui permettent la génération, la régénération.
Si on regarde le système dans sa totalité,
c'est naturel.
Non, non. Comme en Australie, par exemple, j'avais lu un article très intéressant dans une publication australienne.
C'est la nature australienne.
Les aborigènes, depuis des millénaires, font des feux de brousse pour régénérer la nature. C'est juste qu'aujourd'hui...
Mais pas de cette ampleur, non.
Non, et puis pas de, ce n'est pas l'effet des feux aborigènes qui sont malheureusement...
Ben, il paraît que la superficie qui brûle au Canada est deux fois plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 70. Ça, c'est Mike Flanagan, professeur.
Mais est-ce qu'il a donné des explications? C'est ça, parce que statistiquement... Mais est-ce que c'est pourquoi tout ça? Ce serait bien d'aller...
Je ne sais pas.
Ouais. Non, non.
Mike Flanagan n'est pas là au bout de... Ouais, non, pas avec nous. Professeur à l'Université de l'Alberta, il n'est pas là. Mais en voici un autre spécialiste. À l'Université de Sherbrooke, au Québec. Attendez, non, pas du tout. Attendez que je retrouve le titre de mon invité ici.
C'est pourquoi on a plus
de feu. Alors, on a Jean-François Boucher, professeur en éco-conseil au département de sciences fondamentales, Université du Québec à Chicoutimi. C'est très loin, ça, de Sherbrooke. Professeur Boucher, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez du soleil derrière vous. Vous avez de la lumière, en tout cas, à Chicoutimi.
Est-ce que vous me voyez? Oui, il y a de la lumière. C'est beau, c'est froid, mais c'est
froid.
Effectivement, c'est très clair.
Vous avez l'air en forme puis de bonne humeur d'être avec nous, c'est fantastique.
Tout à fait, vraiment content.
Bon, écoutez, vous, là, vous êtes un spécialiste de ces questions de forêts qui sont mal gérées, qui devraient être mieux gérées, tout ça. Quand vous voyez ces feux en Australie et quand vous savez quelle est la situation évolutive au Canada au niveau des incendies de feux de forêt, est-ce que vous établissez des liens? Oui, merci.
Bon. Alors, oui, ben, il y a certainement des liens à tracer, c'est-à-dire que le Canada et l'Australie sont des pays dont les feux de brousse, les feux de forêt de façon générale, sont surtout de forêt, sont généralisés, ils sont récurrents, sont historiquement présents sur le territoire. Il y a une augmentation qu'on peut observer là, de la fréquence et de l'étendue des feux, puis on s'attend à ce qu'il y en ait de plus en plus d'ailleurs. Les essences forestières, pour la plupart, étant donné que c'est une réalité historique depuis toujours, bien, les essences forestières donc, sont adaptées à une certaine récurrence de feu. Donc, un feu ne signifie pas nécessairement une catastrophe. Un peu comme votre collègue à votre droite l'a mentionné tout à l'heure, il y a effectivement une régénération qui se présente après feu dans bien des cas. La plupart des cas, qui est souhaitable, sinon il s'ensuit une déforestation. Là, maintenant, l'état des lieux pour l'Australie actuelle, là, on s'entend que ce sont des feux de superficie historique, donc jamais vus. Il est clair qu'il va y avoir certainement une certaine perte de territoire forestier qui va s'en suivre parce que là, ce n'est pas tout le territoire qui était prêt à recevoir ces feux. On verra l'état des lieux par la suite, mais il faut quand même comprendre qu'il y a une bonne part de ces superficies brûlées-là qui vont se régénérer naturellement ou encore qu'ils le seront par la main de l'homme parce que c'est prévu sur les territoires aménagés durablement de régénérer lorsque la régénération n'est pas là naturellement.
Monsieur Boucher, tout à l'heure, mon collègue Stéphane avait parlé, et vous l'avez aussi confirmé, que maintenant, si je comprends bien, la fréquence des feux augmente. Est-ce qu'il y a une explication à ça?
C'est clairement, on ne peut pas associer de manière intime la réalité des changements climatiques, mais c'est clairement un facteur prédominant dans le constat et aussi dans les prédictions, c'est-à-dire que le réchauffement climatique fait en sorte que les saisons changent en termes de précipitation et en termes de durée et aussi en termes de chaleur présente. Donc, ça fait en sorte que les combustibles, c'est le terme qu'on emploie, là, en écologie forestière liée au feu, les combustibles présents en forêt, que ce soit la biomasse vivante ou morte au sol, ces combustibles-là sont plus propices à être brûlés parce qu'ils sont généralement plus secs. Et aussi, il faut voir qu'il y a une certaine intensification des phénomènes climatiques qui font en sorte que les extrêmes sont de plus en plus fréquents, donc les orages sont de plus en plus fréquents. Et la cause numéro un qui allume les feux, en tout cas pour ce qui est du Canada, c'est clairement la cause principale de l'occurrence des feux et de l'étendue des feux, c'est la foudre. Donc, plus de foudre, plus fréquente en tout cas, et certainement des combustibles qui sont beaucoup plus propices à être allumés, de sorte que les feux sont simplement plus présents et plus étendus.
Quand, M. Boucher, quand il y a des feux qui touchent des régions peu ou inhabitables, d'accord, mais est-ce qu'il y a des craintes aussi que des feux puissent, par exemple, se rapprocher de plus en plus des villes, des métropoles et mettre en danger la vie humaine au Canada?
Oui, tout à fait, parce que, bon, il y a effectivement des communautés qui sont proches des étendues forestières déjà présentement. Il y a un certain étalement urbain aussi, hein, pour voir la conjonction des facteurs. Donc, il y a les facteurs climatiques qui ont un rôle, mais aussi le facteur humain qui joue, c'est-à-dire que les populations se rapprochent de plus en plus des zones forestières avec cet étalement urbain que l'on connaît, même si le Canada est pour une population très, très nombreuse, très peu en fait par rapport à l'étendue du territoire, il reste que ce phénomène-là s'observe. Donc, il y a une conjonction de facteurs qui fait que plus ça va, plus les risques sont élevés par rapport au feu, par rapport à tous les autres risques climatiques par ailleurs, n'est-ce pas?
Et puis moi, je me pose comme question toute cette question de... Je sais qu'il y a des intérêts industriels très puissants au Canada au niveau de la fabrication du bois, de la coupe du bois, ces choses-là, et que dans le domaine de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, ce n'est pas toujours évident d'essayer d'amener les industries à accepter la logique de certaines lois qui devraient être appliquées pour... mieux baliser leur action en forêt. Je dis ça avec tous les bémols qu'il faut, hein, parce que beaucoup de Québécois se souviennent d'un documentaire incroyable dans les années...
L'erreur boréale.
L'erreur boréale, c'était il y a 20 ans. Hein. Ouais. Et puis bon, en 99, merci. Alors depuis l'erreur boréale ou l'horreur boréale, quel grand pas avons-nous accompli en forêt?
Des pas gigantesques. En tout cas, pour le cas du Québec, là, vous faites référence à l'erreur boréale, c'est un documentaire, un pamphlet, hein, faut bien le dire, en 1990, qui dénonçait un certain nombre de choses et qui exprimait aussi une prise de conscience, puis des éléments d'ordre symbolique qui étaient très, très forts. On s'est saisi de ça au Québec, faut bien le dire, la foresterie a complètement changé. Là, maintenant, on ne peut pas dire que c'est qu'il faut convaincre l'industrie ou qu'il faut dompter l'industrie des discours de ce genre-là, parce que l'aménagement forestier durable du Québec, c'est vrai pour l'ensemble canadien, mais pour le Québec, pour parler de ce que je connais le mieux, l'aménagement forestier durable est entre les mains du ministère des Forêts, Fonds des Parcs. Et c'est le ministère qui planifie donc la récolte forestière et qui donc transmet ensuite aux industriels les possibilités de récolte. Et c'est l'industrie qui se soumet donc aux règles du ministère. Et on a un cadre législatif de gouvernance au Québec exemplaire en termes d'aménagement forestier durable. Il n'y a aucun doute à y avoir par rapport à cette réalité-là. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on a atteint un niveau d'intégration de multiples considérations maintenant dans l'aménagement forestier durable du Québec. Qui fait des jaloux à l'échelle mondiale parce qu'on considère des éléments qui dépassent largement la seule considération de la fibre ligneuse et maintenant donc plein de parties prenantes peuvent s'exprimer et travailler en amont sur l'aménagement et inclure donc des préoccupations. Et l'aménagement forestier donc n'est pas un problème en termes de superficie affectée par la récolte forestière. Les perturbations naturelles dépassent et de loin et de beaucoup la perturbation occasionnée par la récolte forestière. Et nous travaillons avec au Québec, là, avec le Canada en entier, hein, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, nous travaillons avec les perturbations naturelles dans le cadre de l'aménagement, comme faisant partie d'un des facteurs à prendre en considération dans l'aménagement, y faire face et de réagir une fois que la perturbation naturelle a eu lieu par des pratiques d'aménagement qui vont prévenir et parfois de venir atténuer Donc, ces impacts-là des perturbations naturelles. Mais en termes de perturbations, la moins importante perturbation et certainement la mieux organisée des perturbations, c'est celle occasionnée par l'humain dans la foresterie d'aujourd'hui.
Professeur, on a une dernière question pour vous.
Ben écoutez, professeur Boucher, vous dites que l'expertise québécoise dans l'aménagement forestier, elle fait des jaloux. Est-ce qu'elle les inspire ailleurs dans le monde?
Est-ce qu'elle inspire ailleurs dans le monde, la forêt québécoise? Ben, je ne pourrais pas vous confirmer ou vous donner des données tangibles à cet égard, mais j'entends des bruits d'un peu partout, en fait, des témoignages d'aménagistes et aussi là, de personnes dans le ministère des Forêts qui font état de cette cette envie, ce serait trop fort, mais on va dire l'exemplarité du Québec par rapport à l'aménagement forestier durable. Et un témoignage de ça, c'est concret, c'est que nous sommes le territoire dont le taux de certification écologique là, du genre FSC, donc les normes d'aménagement forestier durable reconnues mondialement. Cette norme-là, FSC, était présente, généralisée sur le territoire québécois pour ce qui est de l'aménagement forestier durable. Et dans l'ensemble canadien, il y a près de, je pense, 40 % de tout le territoire certifié FSC dans le monde a lieu au Canada. Donc, nous sommes de cette manière-là, si on peut dire, on peut montrer qu'on est exemplaire.
Vous dites ça, puis moi j'ai l'image en tête de l'Australie, je me demande si elle s'est montrée exemplaire dans le passé. On a souligné qu'il y a eu plusieurs gouvernements conservateurs en Australie qui ont un peu mis de côté les considérations d'érosion de sol. En tout cas, il y a des mots scientifiques pour ça, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup d'eau en Australie. Puis des fois, on se dit c'est parce qu'on n'a pas géré le développement humain correctement et on ne le fait toujours pas.
Bon, ben voilà, là, on tombe dans un autre sujet, en fait, parce qu'évidemment, le territoire australien et canadien, à part qu'ils font partie du Commonwealth, les deux, il y a très peu de comparaisons qui tiennent. Évidemment, parce que là, on parle là-bas d'un territoire qui comprend énormément de superficie semi-désertique, carrément désertique, et où les feux de brousse sont très, très importants. Donc, on ne parle pas de feux de forêts productives comme telles, mais plus des feux de brousse et qui occasionnent donc les enjeux que nous connaissons qui sont très graves présentement, c'est clair. Puis là, derrière ça, oui, effectivement, on peut citer, nommer, voir les enjeux humains qui sont très importants de gouvernance, par exemple, du fait que le gouvernement actuel australien est climato-sceptique avoué et n'agit pas donc dans l'intérêt mondial de lutter contre le changement climatique. Et là, c'est un peu ironique de voir qu'une des conséquences attendues des changements climatiques, c'est-à-dire l'augmentation des perturbations naturelles, ben, les frappe de plein fouet. Et donc, ils goûtent un peu à la médecine de ne pas rien faire par rapport au changement climatique. Là, maintenant aussi, il y a toute la question de l'adaptation au changement climatique qui rentre en ligne de compte. Qu'est-ce qu'on doit faire, sachant que ces perturbations-là augmentent? Et là, on voit le monde des finances comme le monde des assurances qui se positionnent et qui disent, vous pouvez peut-être dire que les climats, c'est pas le changement climatique n'est pas une réalité, mais nous savons que c'est une réalité déjà comptabilisée et nos projections sont à l'effet que les coûts reliés aux assurances et aussi les investissements financiers reliés au changement climatique vont faire en sorte qu'il va y avoir un changement qui va s'opérer de toute manière et la facture va être reliée, refilée au monsieur, madame, tout le monde.
Professeur Boucher, merci beaucoup de nous avoir aidés aujourd'hui dans notre réflexion sur ce qu'on fait de bien et ce qu'on fait, on pourrait mieux faire.
Ça me fait plaisir.
On ne peut pas dire qu'on fait les choses mal quand même.
Merci professeur.
Bon, vraiment fantastique. Alors, c'était Jean-François Boucher, professeur en éco-conseil au département de sciences fondamentales à l'Université du Québec à Chicoutimi, dans la belle province du Québec.
Je voulais juste revenir sur le gouvernement australien. Il a beaucoup été dit que c'était un gouvernement climato-sceptique, conservateur, or qu'il est libéral.
Ah oui,
ça paraît paradoxal par rapport à l'idée reçue comme ça.
On parlait aussi des gouvernements précédents qui étaient conservateurs. Malheureusement, ça en prend toujours un ou deux. Et puis...
Pendant les feux, le premier ministre actuel du premier ministre était quand même en vacances à Hawaï.
C'est vrai, ça.
Donc,
ouais.
Hein?
Écoutez, je voulais... Vous vous souvenez des deux premières questions, des questions de superficie, bon, tout
50
ça?
50 000 km² et ah oui, 50% de la Nouvelle-Écosse,
d'accord.
C'est ça?
Avant d'aller vers notre dernier jeu...
Je vais avoir mes points.
Vidéo numéro 8. Pour en savoir plus sur ce sujet, on va passer rapidement, mais on va vous montrer ce qui accompagne la page, le sonore et le visuel aujourd'hui. De l'émission. Alors voilà, c'est tout là. C'est du plus récent au plus ancien.
Bien,
on n'a pas parlé beaucoup des tremblements de terre.
Ah oui, Big One de...
Voilà.
Oui. Moi, j'ai ressenti le... J'ai senti le...
Vous l'avez senti?
Ah ouais, j'étais...
Vous êtes un lève-tôt?
J'étais devant mon ordinateur, je n'étais pas sur Facebook.
Ah bon, ok, c'est vrai.
Ah, oui. En tout cas, ce jour-là, j'étais sur... Et, j'ai senti... Et je me suis dit... Et je me suis dit quoi? C'est un camion. J'ai pensé à un camion.
Ouais.
Et puis... Mais ça m'a effleuré l'idée que c'est un tremblement de terre. Et puis... Puis c'est parti. Et puis tout d'un coup, je reçois du maire de mon quartier une alerte Twitter qui dit ressenti.
C'est vrai, votre maire vous a informé.
Ah, oui. Le maire de notre quartier, il était debout. Elle était debout.
Alors voilà pour, si vous voulez lire la suite, parce que nous, on n'a pas le temps. Alors aujourd'hui, troisième jeu de la grosse boule.
Ah oui.
Le temps des boules à l'émission.
Allons-y.
Là, on perd 50.
50 boules à
là, je joue pas.
Vous en avez perdu 70 jusqu'à
présent. Non, j'ai perdu. Il me reste 50.
J'en reste 50 à perdre, d'accord.
Et j'ai perdu 30.
Seulement.
Donc, il reste 70.
Voilà. 70.
Alors, voici la question. Vous vous souvenez du test le test de maths?
Ah oui, d'accord.
D'accord. La superficie de la Nouvelle-Écosse...
Donc là, il va falloir réfléchir.
Et combien de fois celle de l'île de Montréal? La superficie de la Nouvelle-Écosse est combien de fois celle de l'île de Montréal?
Ah, ben ça, c'est facile.
C'est joli, ça, comme question.
Ouais.
Personne ne se pose ce genre de question.
Non.
Alors... Pourquoi pas la poser?
Pourquoi pas? Moi, je dirais 110 fois.
110 fois,
oui,
vous pensez?
Oui, parce que si les feux mais étaient les feux, 50% de la superficie de la Nouvelle-Écosse...
Oui,
ouais, mais il n'y a pas de corrélation directe.
Non, d'accord, mais...
Okay, je comprends, je vois.
J'essaie de faire une équation à une inconnue. Là.
L'île de Montréal, c'est 500 km². D'accord.
D'accord.
Et puis, on avait dit 110 fois 500 km², c'était la superficie qui brûle présentement... en Australie.
110 fois.
Oui. Ah, oui. Donc, on a dit ça.
Donc c'est 110 fois la.
Non, on n'a pas dit ça.
On a dit, on a dit c'est 50%.
Oui, donc c'est 110.
Bon, une chose qui a, une minuterie à cette question. Alors vous répondez quoi? Vite, vite, vite.
110 fois.
110 fois. B. Pour conserver tous vos points, Samir, vous répondez quoi?
Évidemment.
Vous allez échouer si vous ne répondez
ça
pas.
Ça va aller à 110 fois parce que sinon ça, le chiffre va augmenter beaucoup.
B, 110 fois.
110 fois, ouais.
Eh oui, c'est 110 fois. Vous avez tous raison.
Ah, merci. Parce que l'autre, ça va augmenter.
Ah ouais. Non, ça, 1110 fois.
Ça va aller beaucoup.
Eh ben, tout est possible au Canada.
Oui, la Nouvelle-Écosse est quand même une grande province.
Une grande province, voilà. Alors la superficie de Nouvelle-Écosse.
Donc je garde mes 50 points, ça va, mais félicitations.
55 000 km², c'est la superficie de la Nouvelle-Écosse. Et
c'est à peu près la Belgique, c'est à peu près...
un peu plus que la Corée du Nord, la Belgique, je ne savais pas. C'est enfin, très grand, c'est la Belgique, hein? Très, très grand.
Ouais. C'est pas le Liechtenstein, c'est sûr.
Non.
C'est pas le Vatican, c'est pas...
J'essaie de me souvenir, la première question, elle vous disait qu'on avait combien de fois la superficie de l'île de Montréal?
L'île de Montréal, c'est ça.
C'était combien?
C'est 200%.
200 fois?
Exactement.
Oui, 200 fois, oui.
Bon, on s'y perd dans les questions de mathématiques aujourd'hui.
Ouais, ouais. J'avais été très bon en mathématiques.
Je pense qu'il n'y a pas de quatrième question parce que je ne saurais même pas laquelle vous poser. Voilà. On est prêt pour le dernier jeu de l'émission?
Oui.
C'est quoi?
Une photo, c'est ça?
C'est ça.
Ouais, ben plus que ça. C'est plus digne qu'une photo, c'est l'image. C'est l'image.
Ah, pardon,
excusez-moi. L'image de la semaine.
Excusez, pardon.
J'ai pas de problème. Je réponds par oui ou par non seulement, vous décidez de me dire c'est quoi.
On a eu le crash de l'avion, mais enfin le...
Iran.
L'Iran?
Non.
Parce que ça on l'a déjà, je pense qu'on a déjà fait. Écoute, qu'est-ce qu'il y a?
Si on est dans
le temps, les pingouins du zoo de Calgary?
Le froid intense en Colombie-Britannique?
Non.
Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est pas... Écoutez, l'impeachment, non, la destitution de... Ben oui. Est-ce qu'il y a pas...
Non.
Est-ce que c'est au Canada?
Oui.
OK.
En partie.
L'ALENA?
En partie au Canada?
Non.
Quoi, le chemin Roxham? En partie, puisque tu dis en partie.
Ah ben là, j'ai...
Là, vraiment, quoi, qu'est-ce qu'on a
qu'est-ce
eu?
Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Il s'en est passé des choses.
Toute la semaine, on était focus sur l'Iran.
Posez pas beaucoup de questions, c'est non.
Ben là, en politique québécoise, canadienne...
Ben, c'est relié à la politique, certainement.
Ah, mm-hmm. Trudeau?
Non.
Non
climato. Oh là là.
Ah, climato-sceptique?
Oui. Il y a un rapport de la NASA Il y a un rapport de la NASA et de la NOAA, qui est l'agence des océans des États-Unis.
Ah, non, là.
Qu'est-ce qu'ils ont dit cette semaine?
Alors, le réchauffement des océans.
Ben non, de la dernière décennie.
Ah, qui a été la plus chaude de l'histoire.
De l'histoire. Ah. Et ça a été accompagné par CBC d'images. En voici
une image, OK.
Ouais. Ben oui, une image vaut mille mots. Alors, surtout dans les articles.
Ah,
okay. Ça, c'est impressionnant.
Voici, moi, j'avais pensé à la photo fake news de l'Australie qui brûle, toute l'Australie qui brûle, qui n'est pas une vraie photo.
Non.
Mais c'est, la Disney a connu.
Plus chaude, jamais enregistrée. Ben,
ouais.
Puis, c'est un peu plus clair.
Les seules autres années parmi les 10 premières, parce qu'on en a 8 des 10 premières dans le 2010, là. C'est 2005 et 1998 qui ont été les plus chaudes. Voilà, au niveau des statistiques.
Paradoxalement, l'année où il y avait le verglas au Québec.
Oui, ça a mal commencé, puis ça s'est mal terminé. Oui, voilà,
impressionnant.
Ouais. C'est, tout est lié, au fond, quelque part.
Alors, on n'oublie pas notre trousse 72 heures, c'est ça?
Oui.
Ça, je l'ai bien appris.
Qu'est-ce que vous mettez dans votre trousse de 72 heures?
Ben écoute, je vais aller chercher.
Bon.
Une prière, peut-être.
Oui, et une prière, ça va prolonger à 73 heures. Pardon.
Bon. Ben, Samir, merci beaucoup d'être venu cette semaine.
Merci.
Et puis
merci,
Ismaël aussi.
Merci,
Ismaël et Samir, merci.
Oui, merci Stéphane. On a compris.
J'ai les yeux qui croisent. C'est
j'ai l'habitude d'être ici à côté de toi. D'ailleurs.
C'est vrai, vous avez raison. Ah ben mon Dieu.
Ouais.
Oui, on commence l'émission. À la semaine prochaine.
Merci.
Merci.
Bye.
Au revoir.